Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Sébastien Krebs.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h en cette soirée de bonne nouvelle. C'est pas le cas tous les jours, hein, surtout depuis quelques mois, mais ça y est, l'étau va vraiment se desserrer, lever de la limite des 100 km, la carte de France quasiment tout en vert, la carte de France de l'épidémie bien sûr, les restaurants vont rouvrir partout. Même à Paris, pour les terrasses, c'est un peu la surprise du jour. On va vous détailler tout ce qui change la semaine prochaine avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Votre journal dans quelques secondes et juste après à 18h20, le regard d'un expert, le professeur François Bricaire, infectiologue, membre de l'Académie de médecine. Les grandes voix à 18h30 bien sûr et à 19h, les lycées seront-ils prêts? Ils vont pouvoir rouvrir dès mardi presque partout. Le bac français, lui, l'oral est annulé, ce sera du contrôle continu finalement. Débat ce soir entre proviseurs et parents d'élèves. Enfin, à partir de 19h30, on va prendre des nouvelles des sportifs. Les sportifs de haut niveau, comment reprendre l'entraînement après des mois d'arrêt, des compétitions annulées, avec notamment Richard Gasquet qui sera avec nous tout à l'heure. C'est votre grand journal du soir qui démarre. Soyez les bienvenus, c'est parti jusqu'à 20h sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes.
Souffler après l'épreuve, reprendre une vie presque normale. Notre vie s'apprête donc à changer à partir du 2 juin. Lancement de la phase 2 du déconfinement avec beaucoup, beaucoup d'annonces ce soir. Où, quand, pour qui et pourquoi, on va bien sûr détailler toutes ces annonces ensemble.
Avec notamment la fin de la limitation à 100 km pour les déplacements et une carte de France où la couleur rouge a disparu.
Oui, en métropole, il n'y a plus que du vert à l'exception de l'Île-de-France qui passe au orange et qui aura donc un peu moins de liberté que les autres.
Couleur verte synonyme notamment de réouverture pour tous les cafés et restaurants, et il était temps.
Eh bien, on est très contents, ça faisait un petit moment qu'on attendait cette nouvelle. Ça vaut le 14 juillet, c'est la libération pour nous.
Vous avez reconnu l'accent marseillais en Île-de-France, classé orange donc. Les restaurants et les cafés pourront aussi rouvrir, mais attention, uniquement les terrasses.
Et on demandera au docteur Jimmy Mohamed qui est avec nous ce qu'il pense de cette liberté retrouvée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désormais exclure complètement une seconde vague?
Et puis on s'intéressera aussi à nos enfants. Écoles et collèges peuvent rouvrir dès mardi, mais pour les lycées, ce sera uniquement en zone verte. Dans ce journal, on reviendra également sur la hausse très spectaculaire du chômage en avril et sur la disparition d'une figure de la droite, le député Claude Goasguen. Catherine Ney viendra nous en parler. La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte hausse de 1,76%.
Les nouvelles sont bonnes. Est-ce qu'elles sont bonnes du côté de la météo, Anissa? Bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, malheureusement, je vais gâcher l'ambiance puisque demain, c'est le retour des orages. Un temps très agité, notamment sur le sud-est, partout ailleurs. Poursuite de ce temps estival, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
Et nous voilà donc fixés. Hein. Édouard Philippe vient de donner tous les détails de la vie d'après, cette phase 2 du déconfinement qui débutera le 2 juin et qui évidemment est très attendu par les Français. Alors il a été dit beaucoup de choses hein, dans cette intervention. On va essayer de vous résumer tout ça le mieux possible. Évidemment, le Premier ministre qui en préambule a énuméré tout ce qui allait changer en bien à partir de mardi prochain.
Au cours de cette phase 2, la liberté enfin va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts, la réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange, la réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires.
Édouard Philippe avec Jean-Rémy Baudot tout à l'heure à l'Élysée. Alors l'une des annonces fortes aujourd'hui du Premier ministre, c'est l'évolution de la fameuse carte de France. Avec Ève Roger, un aspect important, c'est que le rouge a complètement disparu.
Et oui, ça doit être le soulagement dans le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Ces trois régions qui ont viré cet après-midi du rouge au vert. Il n'en reste donc qu'une seule, vous l'avez dit, l'Île-de-France qui s'arrête en chemin et se retrouve aujourd'hui non pas en vert mais en orange. Et cette couleur orange concerne aussi la Guyane et Mayotte. Alors orange, le Premier ministre l'a dit, ça veut dire un déconfinement plus prudent qu'ailleurs, vous l'avez entendu, les parcs et jardins rouvrent à certaines conditions et puis pour les cafés et restaurants en zone orange, on ne pourra s'installer pour l'instant qu'en terrasse. Alors pourquoi l'Île-de-France? Parce que le virus y circule un peu plus qu'ailleurs, a précisé Olivier Véran, le ministre de la Santé. Un peu plus, et pas forcément à cause de la présence de clusters, le virus circule un peu partout en Île-de-France. Et puis deuxième critère qui maintient la région sous surveillance, la tension dans les hôpitaux. Et c'est vrai, dans la région capitale, il y a toujours 7000 patients hospitalisés, dont plus de 600 en réanimation.
Ève Roger, merci chef du service Société d'Europe 1.
Avec nous comme tous les soirs maintenant, le docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir docteur.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Alors la disparition du rouge sur cette carte de France, est-ce que ça veut dire que ça y est, on est sûr qu'il n'y aura pas de deuxième vague? Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît raisonnable?
On a suffisamment de recul pour dire que les indicateurs sont bons, ils sont factuels. Le premier c'est le taux d'incidence, le nombre de malades par semaine et par habitant, le nombre de tests positifs qui est aussi très faible, il est de 2% alors qu'il était de 20% au moment de l'épidémie. Ce fameux R0, le nombre de personnes malades qu'on va contaminer, il est en dessous de 1 et puis la capacité des réanimations qui est franchement en nette amélioration, ce qui veut donc dire que le virus va un peu circuler, on aura des clusters, mais tant qu'on les identifie, qu'on les teste, qu'on les isole, on est plutôt tranquille et puis on a un peu de liberté. La fermeture des plages était un peu incompréhensible, celle des parcs, on va pas refaire le match, mais au moins on peut être un peu serein, surtout que la vie doit reprendre, le confinement a marché, mais il faudrait pas que les conséquences du confinement prennent le dessus sur des effets délétères, des effets socio-économiques. Donc on va peut-être pouvoir un peu souffler pour cet été jusqu'à l'hiver prochain peut-être, espérons-le.
Merci docteur Jimmy Mohamed, vous restez avec nous, on va en reparler longuement pendant les grandes voies dès 18h30 et puis juste avant dès 18h20, on verra ce qu'en pense mon invité, l'infectiologue François Bricker.
Alors il y a beaucoup de monde qui retrouve le sourire ce soir, en particulier les restaurateurs qui étaient bien sûr suspendus aux paroles du Premier ministre.
Et oui, en zone verte, on le disait, ça y est, ils vont pouvoir rouvrir dès mardi, pareil pour les cafés, et c'est évidemment un soulagement dans toutes ces régions concernées, notamment chez vous à Marseille, Nathalie Chevance.
Oui, et sur la plage du Prado, certains restaurateurs se préparent déjà. Coup de peinture sur les devantures, tables décapées, prépositionnées. Personnel qui commence à prendre ses marques. Cette fois, la date est fixée pour le plus grand bonheur de Fred, de la brasserie L'Equinox, avec son immense terrasse face à la mer.
Eh bien, on est très contents. Ça faisait un petit moment qu'on attendait cette nouvelle. Ça vaut le 14 juillet. C'est la libération pour nous. Personnel en pleine forme, nous aussi. On s'est donné les moyens avec des bornes de gel hydroalcoolique, avec tous les process mis en place, des sens de circulation. On a la chance d'avoir de la place. On va réagencer, on va aérer. En fait, on voudrait instaurer un climat de confiance avec le client. Nous, ça va le faire.
Avec des Marseillais un peu lassés par les apéros dînatoires sur les rochers qui, pour la plupart, n'attendent qu'une chose, se réinstaller en terrasse, cri du cœur.
Oui ! C'est nécessaire pour eux et pour nous. C'est vrai que de se poser en terrasse plutôt que de venir pique-niquer, après ça a un charme différent. Mais c'est vrai que c'est échanger, c'est le pur moment de convivialité, le restaurant. J'ai hâte.
On voit que les tables sont commencées à se positionner. Oui, oui, oui. Il était temps.
Avec aussi une autre étape très importante ici, l'ouverture des plages à Marseille d'ici quelques jours pour le véritable coup d'envoi de la saison estivale.
Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1. Parmi les autres annonces importantes du jour, on entendait tout à l'heure la reprise des cours.
Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Les écoliers, les collégiens et les lycéens, Virginie, ne seront pas tous logés à la même enseigne.
Effectivement. Alors l'annonce très attendue, c'était celle de l'oral du bac de français. Il est annulé. L'épreuve sera validée par le contrôle continu pour les 526 000 élèves de classe de première. Mais les lycées vont rouvrir, y compris en zone orange comme l'Île-de-France. Alors pas pour reprendre les cours, mais pour assurer au moins un entretien pédagogique individuel avant la fin de l'année. Les collèges des zones orange vont rouvrir à partir de la semaine prochaine pour un accueil progressif des élèves de 6e et 5e. Et puis dans les zones vertes, les élèves de 4e et 3e vont pouvoir retourner en classe eux aussi au moins une partie de la semaine par un système de roulement comme en primaire. Et puis dans les écoles maternelles et élémentaires, il n'y aura pas d'allègement du protocole sanitaire, mais elles doivent assurer un accueil systématique des élèves, au moins à temps partiel. Le ministre n'explique pas comment et toutes les écoles doivent rouvrir dès mardi prochain. Il reste environ 15% d'écoles fermées en France.
Merci. Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Je vous donne plusieurs autres annonces importantes. Édouard Philippe est encore en train de parler, donc il y en aura peut-être d'autres. La reprise progressive de la vie culturelle et sportive, les musées et les monuments qui vont pouvoir rouvrir, tout comme les théâtres et les salles de spectacle à partir aussi du 2 juin et avec pas mal de conditions. Les parcs de loisirs aussi, là encore dans certaines conditions, mais les boîtes de nuit resteront fermées. Les cinémas ouvriront, écoutez bien, à partir du 22 juin. Les villages vacances et les campings pourront rouvrir dès le 2 juin uniquement en zone verte. Ce sera le 22 juin en zone orange. Les colonies de vacances pourront avoir lieu à compter du 22 juin. Réouverture, on l'entendait tout à l'heure, hein, des parcs et jardins en zone orange, y compris à Paris, et ce, dès ce week-end. Les piscines, les gymnases, les salles de sport pourront rouvrir le 2 juin en zone verte. Quant à la réouverture des frontières à l'extérieur de l'espace Schengen, la décision sera prise collectivement avec tous les pays de l'Europe à partir du 15 juin. Mais à l'intérieur de l'Europe, en revanche, si la situation le permet d'ici là, bien sûr, nous devrions pouvoir voyager dès le 15 juin partout en Europe, sans quarantaine imposée. Toutes ces mesures seront bien sûr réévaluées fin juin.
Voilà, donc on suit en temps réel tout ce qui tombe et on vous communique toutes ces annonces. On va en reparler très largement, bien sûr, avec les grandes voix. Et on reviendra sur ce qu'on disait des collèges et des lycées après 19h, le débat entre proviseurs et parents d'élèves, notamment sur l'épreuve de l'oral du bac français.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
À suivre dans votre journal de 18h, le chômage à son plus haut niveau depuis 1996, en fait depuis le début des statistiques.
Et puis la disparition d'une figure de la vie politique parisienne, Claude Goasguen, il avait 75 ans.
Europe 1. Interruption spéciale.
Avec l'assurance auto MMA, les kilomètres non roulés sont des kilomètres remboursés. Zéro tracas.
Et zéro blabla, envoyez la pub.
MMA. Conditions sur MMA.fr.
L'affaire Clara Miller, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des lecteurs conquis, une presse enthousiaste. Pour le Parisien, une fois commencé, impossible de le lâcher. Pour la Dépêche du Midi, un roman qui fera date. L'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Un livre XO. XO, lire pour le plaisir.
Et voilà, c'est la fin du confinement. Et chez Atoll, on sait que vous vous êtes essayé à différents métiers, avec plus ou moins de réussite. Prof de maths et d'histoire, chef à domicile, coach sportif et même coiffeur. Oh, ça va, ça repousse. Mais il y a un métier que vous n'avez pas pu pratiquer, c'est opticien. Alors chez Atoll, nous vous offrons un test de vue pour refaire vos lunettes rapidement, avec des verres Essilor. Atoll, mon opticien. Ce test n'est pas un examen médical, voire condition sur site internet.
Avec Renault Pro Plus, parlons des professionnels. Anne, par exemple, est agent immobilier. Elle fait toutes ses visites en voiture et elle ne paye ni l'essence ni le parking.
Bah, ça, c'est parce que je roule en électrique.
J'y viens. C'est depuis qu'Anne est passée à l'électrique avec Renault Pro Plus qu'elle fait de réelles économies sur ses frais de déplacement et maîtrise mieux son budget.
Et c'est ça qui compte.
Avec Renault Pro Plus, changez d'énergie sans rien changer à votre business. Avantages économiques disponibles sur Renault.fr.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
La perspective d'une reprise de l'activité économique plus que jamais nécessaire. On regarde les chiffres du chômage qui ont été donnés pour le mois d'avril.
Oui, Édouard Philippe l'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure dans son discours. Sans surprise, ces chiffres sont très mauvais. Alors c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
C'est même plus que très mauvais. C'est sans précédent, une hausse de 22% pour la catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs sans aucun emploi.
Oui, écoutez ce chiffre, 843 000 demandeurs d'emploi en plus sur un mois. 4 575 500 personnes actuellement sans emploi en France. C'est tout simplement du jamais vu depuis la création de la série statistique en 1996. Toutes les tranches d'âge sont concernées par cette forte hausse, mais ce sont les moins de 25 ans qui sont les plus touchés. Cette augmentation est portée par ceux qui cherchent des emplois dans le secteur du tourisme, du bâtiment ou encore du spectacle. Et si ça augmente autant, c'est que beaucoup de demandeurs d'emploi qui arrivent à avoir traditionnellement quand même avoir une petite activité réduite pendant le mois où, qui se passe, et bien là, ils n'ont rien pu trouver. Ces chômeurs expliquent trois quarts de la hausse de cette catégorie A. Un quart, malgré tout, sont de nouveaux inscrits. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça montre très clairement que le marché de l'emploi est complètement bouché pour ceux qui sont au chômage et que certains commencent à perdre leur poste et s'inscrivent donc à Pôle emploi.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Le tribunal des prud'hommes d'Amiens a rendu sa décision sur la fermeture de l'usine Goodyear en 2014 et sur le licenciement de plus de 830 salariés.
Les salariés qui devront être indemnisés. La justice estime en effet que ce licenciement était sans motif économique valide. Goodyear a encore toutefois la possibilité de faire appel. À Lyon, le maire Gérard Collomb s'efface derrière le candidat LR. Il ne sera pas candidat à la présidence de la métropole. C'est une énorme surprise hein. Dans cette campagne. Gérard Collomb, arrivé troisième au premier tour, annonce une alliance avec la droite. Il choisit de s'effacer derrière le candidat Les Républicains, François-Noël Buffet. Et puis on vous le disait dans les titres, une figure de la droite s'est éteinte aujourd'hui. Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris, ancien maire du 16e arrondissement. Il a succombé à un arrêt cardiaque après avoir contracté il y a plusieurs semaines le Covid-19. Il avait 75 ans.
Et Catherine Ney est avec nous. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Sébastien.
Grande voix d'Europe 1, vous l'avez côtoyé, hein, Claude Goasguen. Qu'est-ce qui disparaît avec lui dans la vie politique française ?
Mais c'est une race de parlementaires qui n'existera plus après lui, parce que d'abord c'est une force de la nature, un caractère. Vous savez, quand il y avait du brouhaha dans l'hémicycle au moment des questions d'actualité, il fallait toujours aller regarder de son côté. C'était lui qui sortait une formule, quelquefois un peu facile, alors qu'il était un universitaire respecté, docteur en droit, juriste pointu, mais il avait des idées tranchées surtout. C'était un caractère, vous voyez, partisan d'une droite musclée, décomplexée. Donc ça veut dire qu'il était heureux dans l'ajout de parlementaires, mais plus heureux dans l'opposition que dans l'approbation gouvernementale.
Et il aimait la provoque.
Oui, parce que tout était passionnel chez lui. Vous voyez, jeune, il était président de la Corpo de droit Panthéon à Sass, vous voyez, et très proche d'Occident, de Madeleine, Longuet, tout ça. Donc c'était quand même, vous voyez, un tempérament de droite, mais surtout toujours prêt à la castagne, même physique, avec des proches, des opposants. Et quand ça allait bien, il aimait ouvrir des conflits, même avec les proches, pour le plaisir de vituperer, de râler, d'estomir.
Et c'était un très proche de Jacques Chirac qu'il avait nommé au gouvernement en 95, mais il s'est fait virer assez vite avec les jupettes, quelques mois plus tard.
Oui, ça c'était Alain Juppé qui, voulant se débarrasser de femmes parce qu'il en avait trop nommé, il fallait bien deux hommes qui pour faire bon poids. Il y a eu à la fois François Baroin qui était porte-parole du gouvernement et qui faisait très bien son boulot, et lui-même qui était ministre de la réforme de l'État et qui avait tout à fait les capacités pour agir, et qui tous les deux ont été virés et d'ailleurs n'ont jamais pardonné à Alain Juppé. Oui, ça c'est vrai.
Merci Catherine Ney, et on vous retrouve très vite hein, la semaine prochaine avec les grandes voix, avec aussi Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et puis Sébastien, une dernière minute, on apprend à l'instant, à la seconde, la disparition de Guy Bedos. C'est son fils hein, qui l'annonce lui-même sur Twitter. Son fils qui écrit ce très beau texte. Il était beau, il était drôle, il était courageux. Je suis fière de l'avoir eu comme père. Et je vous propose qu'on réécoute tout de suite un petit extrait de Guy Bedos. Vous savez qu'il tirait à boulet rouge, notamment sur les politiques, surtout de droite, et on a envie ce soir, bien sûr, de réentendre sa voix.
Putain de gosse ! À l'enfoiré de monde ! Il a chialé toute la nuit, ce petit con. Toute la nuit, je me le suis tapé. De 11h15 hier soir à 6h27 ce matin, où il a fini par plonger, juste au moment de le réveiller pour la première tétée. Ça, c'est pas moi, ça. J'allais pas, encore heureux. On m'a exempté. Putain de gosse ! J'avais tout prévu. Je m'étais shooté comme un malade à la camomille, les boules s'enfonçaient jusqu'au cervelet, 50 fois dans la nuit, waouh, les boules, spling, putain de gosse. Ce type-là, crois-moi, il a de la chance d'être mon fils et d'avoir 8 mois et demi.
Voilà, avec Guy Bedos sur scène, sa voix, son ton. Guy Bedos, on se souvient de lui sur scène, on se souvient de lui aussi au cinéma, sous la direction d'Yves Robert. Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis et d'autres encore. On va revenir sur le parcours de Guy Bedos, dont on apprend à l'instant la mort annoncée par son fils sur les réseaux sociaux. On va y revenir à 18h30. Portrait complet et les archives, bien sûr, d'Europe 1. C'était le journal d'Isabelle Millet.